Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en langue française diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de la revue de presse et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'équipe de l'expédition d'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, du corridor de Papouasie-Occidentale 2016, a trouvé de nombreuses cultures potentielles. Le Sénégal s'intéresse à l'hélicoptère et aux traversiers d'Indonésie. Indonésie, Malaisie organise la patrouille maritime conjointe. La promotion du tourisme indonésien à Taïwan. La coopération entre l'Indonésie et l'Iran dans l'éducation. Et enfin, l'Indonésie cible le marché de la mode sud-coréenne. Voici le journal complet. L'expédition de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, du corridor de Papouasie-Occidentale en 2016, a été officiellement fermée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de TNI Mulyono, au quartier général du commandement des forces spéciales à Jakarta, le vendredi. L'expédition a eu lieu du 1er février au 31 mai 2016 à 8 résidences en Papouasie-Occidentale. Le général Mulyono a affirmé aux médias, après la clôture de l'expédition, que l'équipe de l'expédition avait mené bien la mission en conformité avec la cible. Même, selon lui, l'équipe de l'expédition a également trouvé de nombreuses nouvelles espèces de la flore et de la faune, ainsi que le potentiel pour d'autres cultures qui peuvent être utilisées par des Indonésiens. L'expédition de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, du corridor de Papouasie-Occidentale en 2016, a été participée par 1193 participants se composant de membres des forces armées indonésiennes, TNI, des membres de la police nationale indonésienne, Polri, des universitaires, des organisations non gouvernementales, des ministères, des institutions gouvernementales, des étudiants de 54 universités en Indonésie et de la société. Le ministère des Affaires intérieures du Sénégal s'intéresse à certains produits de l'industrie stratégique d'Indonésie, entre autres le traversier de PAL, société anonyme, et l'hélicoptère de Dirgantara Indonesia, société anonyme. L'ambassade d'Indonésie à Dakar, au Sénégal, a dit le vendredi dernier que le Sénégal avait besoin de traversiers pour le transport à courte distance entre villes pour les personnes très importantes. Le Sénégal, qui est en train de construire son économie, veut compléter la flotte de transport militaire pour soutenir les activités de surveillance dans les zones frontalières avec les pays voisins. L'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal, Mansour, a déclaré, après avoir remis ses lettres de créance au président du Sénégal, Macky Sall, que l'Indonésie et le Sénégal jouaient également un rôle actif dans la création de la paix mondiale par l'envoi de forces de maintien de la paix des Nations Unies dans diverses parties du monde. L'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie organisait une patrouille conjointe avec le gouvernement malais dans les eaux frontalières des deux pays. La patrouille, qui utilise le mot de passe « patrouille intégrée sur l'opération maritime de Malaisie-Indonésie » ou « PATCOR Optima Malindo », organisée depuis la semaine dernière à Klang en Malaisie, et est toujours en course jusqu'à aujourd'hui. Le directeur des opérations maritimes de l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie, le capitaine de faisceau Rahmat Ekor Harjo, dans un communiqué de presse le vendredi, a expliqué que les éléments impliqués l'Indonésie sont le bateau de guerre indonésien Siwar Si-4-Si, le bateau de guerre indonésien Tenggiri 8-Si-5 et le bateau de patrouille Macan 0-0-2. Cependant, le directeur de la loi de l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie, le vice-amiral Yuli Darmawanto, a dit « L'Indonésie ne disposait pas d'un système de sécurité maritime qui peut créer une synergie de tous les composants. » L'Agence de sécurité maritime a essayé d'établir un système de telle sorte que toutes les parties prenantes peuvent travailler ensemble pour maintenir efficacement la sécurité en mer. L'Indonésie a promu le potentiel du tourisme dans toutes les régions à travers l'événement Conférence internationale de la jeune chambre économique de l'Asie-Pacifique du 3 au 5 juin 2016 à Kaohsiung, Taïwan. Le conseiller principal du ministère du tourisme, Hari Waluyo, a déclaré jeudi à Kaohsiung que Taïwan est l'un des marchés principaux du tourisme indonésien car Taïwan est inclus dans le rang de top 10. Selon lui, la participation de l'Indonésie dans cette activité est très importante, compte tenu certains facteurs soutenants pour attirer les touristes de Taïwan, entre autres, la situation géographique qui n'est pas trop loin et l'intérêt des touristes de Taïwan à l'attraction et les destinations touristiques de l'Indonésie. Il a ajouté que la promotion à cet événement pourrait améliorer l'image touristique de l'Indonésie aux yeux de la population de Taïwan, si bien qu'elle contribue à une augmentation des arrivées de touristes en provenance de Taïwan à l'Indonésie. L'Indonésie et l'Iran coopéreront dans le développement de l'éducation religieuse, à la fois l'enseignement supérieur et les écoles coraniques, afin de reconstruire la civilisation islamique. Le ministre indonésien des Affaires religieuses, Lukman Hakim, a bien accepté l'invitation de la coopération de l'Iran et cette coopération doit être établie vers une meilleure direction, cité par la page kemenak.go.id vendredi. Lukman espère qu'à travers cette coopération, les deux pays peuvent créer les mêmes vues sur l'islam. Selon lui, l'Iran est l'un des pays qui joue un rôle important dans la construction de la civilisation du monde. La bonne réponse du ministre Lukman Hakim a été exprimée lorsque l'Iran du ministère indonésien des Affaires religieuses a reçu une délégation iranienne, y compris le chef des relations internationales de Hawzah Ilmiah Klom de l'Iran, Muhammad Hassan Jamani, le grand prêtre de Mazhab Shafi'i de l'Iran, Abdul Baiz Kitali et l'ambassadeur de l'Iran à l'Indonésie, Muhammadi. À cette occasion, Zamani a invité les ulémas indonésiens à regarder les établissements d'enseignement en Iran. Le personnel d'experts chargé du secteur du commerce et des services du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré « L'Indonésie se concentrerait sur le développement de l'exportation de produits en cuir et de la mode en Corée du Sud. » Ce développement est marqué par la coopération entre le ministère indonésien du Commerce avec la délégation du Centre Asian Corée. Arlinda a déclaré vendredi que l'événement fournirait l'information de la stratégie de diversification des produits d'exportation, en particulier vers le pays traditionnel, à savoir la Corée du Sud. En termes de tendance de design, le goût du marché, les normes de qualité, des stratégies de marketing efficaces ainsi que les procédures d'exportation et règlements en vigueur en Corée du Sud. Arlinda a affirmé une série d'activités de l'adaptation de produits en cuir et la mode devraient être utilisées pour améliorer l'accès des produits en cuir et de la mode d'Indonésie en Corée du Sud. De plus, les deux sont l'un des produits du potentiel d'exportation de l'Indonésie. Serge Tor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous. Nous voulons vous présenter la revue de presse. Premièrement, le journal Compass a écrit dans son éditorial au 3 juin 2016 sur le défi de l'inégalité. La question de l'inégalité socio-économique est de nouveau soulevée en utilisant la dynamique de l'anniversaire de la naissance du Pancasila le 1er juin. Bien que l'Indonésie, comme un État indépendant, a été exécutée près de 71 années, l'inégalité socio-économique a été impressionnée, ne rétrécit pas, mais elle tend à se creuser. Les réalités socio-économiques pleines d'inexactitudes tiennent complètement à l'écart du mandat du cinquième principe de Pancasila et la Constitution qui met l'accent sur la justice sociale. L'inégalité sociale a créé de la pauvreté pour des dizaines de millions de citoyens de l'Indonésie, tandis que peu de gens qui contrôlent la majorité de la richesse du pays vivent se vautrer dans la richesse. Ceci est très injuste. Les efforts visant à supprimer les inégalités et la pauvreté sont plus difficiles en raison du tollé politique et les conflits d'intérêts qui ne finissent jamais. L'élargissement des inégalités sociales qui sont laissées sans aucune tentative sérieuse pour le résoudre pourrait être des menaces malveillantes qui affecte la vie de la nation. Avant que les choses empirent, les efforts acharnés pour surmonter l'inégalité sociale est le plus nécessaire. En utilisant la dynamique de la naissance de Pancasila, l'esprit doit être mené pour mettre en œuvre les idéaux d'indépendance pour une société juste et prospère. Le quotidien Republica, dans son éditorial au 1er juin, a écrit sur le prix des produits de base. Comme retourner à la maison, qui devient un rituel annuel à la fête Lebaran de l'Aïd, le prix des produits de base ont également augmenté en avance de Ramadan jusqu'à l'Aïd. La hausse des prix de certains produits de base à ce jour ne peut pas être résolu par le gouvernement. En tant que gouvernement qui adhère à une économie de marché, maintenir la stabilité du prix des produits de base devient une nécessité. Lorsque l'ère du président Suharto, l'agence logistique Bulog a maîtrisé une variété de produits depuis l'époque de la réforme. Bulog est le seul responsable de produits de base de riz. À l'heure actuelle, la principale tâche de Bulog est encore sur le riz et les sources de financement commercial. En fait, à l'époque de Nouvel Ordre, Bulog a obtenu des fonds à très faible intérêt pour obtenir les nécessités de base et de libérer de nouveau dans le marché pour maintenir la stabilité de prix des produits de base. En fait, l'augmentation des prix pendant le Ramadan et l'Aïd peut encore être comprise si seulement 10 à 15%, mais en s'élevant au-dessus de 25%, les gens protestent car il était au-dessus de la limite de tolérance. Tant que le gouvernement continue de donner le rôle de Bulog comme aujourd'hui, nous allons obtenir les augmentations des agrafes dans les années suivantes. Selon le quotidien Republica, c'est la nécessité de donner le rôle plus large à Bulog comme une institution de soutien pour aider les agricultures lorsque les prix des produits de base tombent en achetant au-dessus du prix de production. Bulog peut aussi agir pour maintenir les prix alors que les prix ont grimpé en menant des opérations de marché et de libérer leurs produits. Nous terminons avec le journal Tempo qui a écrit à son éditorial au 31 mai sur assourdir le prix avant l'Aïd. Avant Ramadan, quelques jours prochains, le gouvernement doit veiller à la disponibilité des besoins alimentaires, en particulier des agrafes. En plus de pénurie, les prix des produits de base devraient être abordables. Ne laissez pas les prix monter en flèche, résultant du pouvoir d'achat de la population a diminué. Deux prix des matières premières rebond et maintenant l'oignon rouge et la viande. En raison de la flambée des prix de l'oignon depuis le début de l'année, ce produit est devenu le plus gros contributeur à l'inflation en mars. Selon Tempo, dans une telle situation, le gouvernement doit fortement contre les spéculateurs. Le gouvernement doit prendre de manière radicale que le prix des produits de base de la société stable, y compris par voie de modification de la structure du marché. La structure du marché actuelle est maintenant contrôlée par les commerçants afin qu'ils puissent être appelés en monopole. Cher ami, c'était la revue de presse.
Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous à nouveau dans le programme L'Histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec l'événement le 4 juin 1920. Le traité de Trianon a été signé. Le traité de Trianon est un traité de paix après la fin de la Première Guerre mondiale entre les alliés de la Première Guerre mondiale et la Hongrie, qui est considéré comme le successeur de l'Autriche-Hongrie. Ce traité discute de la frontière hongroise. La Hongrie a perdu les 2/3 de son territoire et environ 2/3 de la population. Les pays qui bénéficient principalement sont la Roumanie, la Tchécoslovaquie et le Royaume de Serbie, la Croatie et la Slovénie. Le prochain événement était en 1968. L'Égypte a déclaré qu'il ne prolongerait pas le canal de Suez après l'expiration de la concession en 1968. L'émergence de Gamal Abdel Nasser en 1954 comme le nouveau leader de l'Égypte, qui était révolutionnaire, remplaçant Mohamed Naguib, a fait des politiques rapides pour le développement économique et politique de l'Égypte. Le 4 juin 1956, Nasser a déclaré qu'il ne prolongerait pas du canal de Suez après que la concession ait expiré en 1968. En raison de la résiliation de la concession et enfin la nationalisation du canal de Suez, un peu plus tard, la guerre éclate entre l'Égypte contre l'Angleterre et la France. Le dernier événement était en 1962, lorsque les parachutistes de l'armée indonésienne ont sauté pour la première fois dans l'Irian occidental. Le 4 juin 1962, à Merauke, ou précisément au district de Tanah Miring, les parachutistes de l'armée indonésienne ont sauté pour la première fois, dirigés par le major L.B. Murdani. Le parachutisme avec 3 de C-130 Hercules a eu lieu pour libérer l'Irian occidental de la colonisation néerlandaise. Pour commémorer L.B. Mourdani est aussi l'opération du Dragon. Le monument de L.B. Mourdani a été inauguré le 6 novembre 1961. Sur le monument, il y a un texte qui lit « Di sini daerah penerjunan dalam rangka pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor L.B. Mourdani pada tanggal 4 Juni 1962. » Qui signifie « Ici, la zone de saut dans le cadre de la libération de l'Iran occidental, dirigée par le Mayor L.B. Mourdani le 4 juin 1962. » Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis longtemps, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie s'efforce toujours d'améliorer l'économie macro. L'Agence internationale de notation Standard & Poor's, le 1er juin, a donné la note de la dette de l'Indonésie qui était encore au niveau de BB+ pour les titres de créances à long terme et B pour les titres de créances à court terme. Cela signifie que l'Indonésie n'a pas classé dans le grade d'investissement. L'agence de notation, dont le siège est à New York aux États-Unis, a souligné que la performance des instruments fiscaux ou du budget d'État du gouvernement n'a pas amélioré, qui ont été en course d'exécution régulièrement ou structurellement. La note attribuée à l'Indonésie était en général, car en termes de réalisation du milieu pour les indicateurs budgétaires et extérieurs et les revenus par habitant, ils sont encore faibles. Cependant, d'autre part, les politiques et les règlements institutionnels se sont améliorés et la politique monétaire prise est tout à fait crédible. Standard & Poor's a déclaré que la perspective de la note à long terme pour l'Indonésie est positive. Lié à l'évaluation de Standard & Poor's, le ministre des Finances Bambang Brojonegoro reste optimiste que les conditions du ratio de la dette au produit intérieur brut de l'Indonésie et de la gestion du financement du gouvernement du prêt sont actuellement en bon état. Bambang Brojonegoro a même confirmé que les investisseurs de portefeuille n'étaient pas trop touchés par les notations de Standard & Poor's, parce qu'ils répondent bien au plan du gouvernement d'émettre des obligations en euros dans un proche avenir. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, a dit qu'il respectait la décision et l'évaluation de l'Agence internationale de notation Standard & Poor's. Selon lui, l'Indonésie prête attention au développement économique du monde et s'efforce à renforcer le macroéconomique de l'Indonésie. Agus évalue que la Banque d'Indonésie et le gouvernement ont jusqu'à présent réussi à maintenir l'état des fondamentaux économiques de l'Indonésie restable et a même augmenté. Un économiste Budi Hikmat a dit « Standard & Poor's voyait une amélioration de l'économie de l'Indonésie ». Néanmoins, il avoue, l'agence était toujours en attente de deux événements importants dans l'économie indonésienne, à savoir la révision du budget de l'État et le schéma d'amnistie fiscale pour les entrepreneurs. Par conséquent, Budi a rappelé au gouvernement l'importance de la préparation du bon schéma d'amnistie fiscale. En raison de ce schéma, a été recommandé par la Banque mondiale et mis en évidence par Standard & Poor's. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. L'expédition de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, du corridor de Papouasie-Occidentale en 2016, a été officiellement fermée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de TNI Mulyono, au quartier général du commandement des forces spéciales à Jakarta, le vendredi. L'expédition a eu lieu du 1er février au 31 mai 2016 à 8 résidences en Papouasie-Occidentale. Le général Mouliono a affirmé aux médias, après la clôture de l'expédition, que l'équipe de l'expédition avait mené bien la mission en conformité avec la cible. Même, selon lui, l'équipe de l'expédition a également trouvé de nombreuses nouvelles espèces de la flore et de la faune, ainsi que le potentiel pour d'autres cultures qui peuvent être utilisées par des Indonésiens. L'expédition de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, du corridor de Papouasie-Occidentale en 2016, a été participée par 1193 participants se composant de membres des forces armées indonésiennes, TNI, des membres de la police nationale indonésienne, Polri, des universitaires, des organisations non gouvernementales, des ministères, des institutions gouvernementales, des étudiants de 54 universités en Indonésie et de la société. Le ministère des Affaires intérieures du Sénégal s'intéresse à certains produits de l'industrie stratégique d'Indonésie, entre autres le traversier de PAL, Société Anonyme, et l'hélicoptère de Dirgantara Indonesia, Société Anonyme. L'ambassade d'Indonésie à Dakar, au Sénégal, a dit le vendredi dernier que le Sénégal avait besoin de traversiers pour le transport à courte distance entre villes pour les personnes très importantes. Le Sénégal, qui est en train de construire son économie, veut compléter la flotte de transport militaire pour soutenir les activités de surveillance dans les zones frontalières avec les pays voisins. L'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal, Mansour, a déclaré, après avoir remis ses lettres de créance au président du Sénégal, Macky Sall, que l'Indonésie et le Sénégal jouaient également un rôle actif dans la création de la paix mondiale par l'envoi de forces de maintien de la paix des Nations Unies dans diverses parties du monde. L'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie organisait une patrouille conjointe avec le gouvernement malais dans les eaux frontalières des deux pays. La patrouille, qui utilise le mot de passe « patrouille intégrée sur l'opération maritime de Malaisie-Indonésie » ou « PATCOR Optima Malindo », organisée depuis la semaine dernière à Klang en Malaisie et est toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. Le directeur des opérations maritimes de l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie, le capitaine de faisceau Rahmat Ekor Harjo, dans un communiqué de presse le vendredi, a expliqué que les éléments impliqués l'Indonésie sont le bateau de guerre indonésien Siwar 646, le bateau de guerre indonésien Tenggiri 865 et le bateau de patrouille Macan 002. Cependant, le directeur de la loi de l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie, le vice-amiral Yuli Darmawanto, a dit « L'Indonésie ne disposait pas d'un système de sécurité maritime qui peut créer une synergie de tous les composants. L'Agence de sécurité maritime a essayé d'établir un système de telle sorte que toutes les parties prenantes peuvent travailler ensemble pour maintenir efficacement la sécurité en mer. » L'Indonésie a promu le potentiel du tourisme dans toutes les régions à travers l'événement Conférence internationale de la Jeune Chambre économique de l'Asie-Pacifique du 3 au 5 juin 2016 à Kaohsiung, Taïwan. Le conseiller principal du ministère du tourisme, Hari Waluyo, a déclaré jeudi à Kaohsiung que Taïwan est l'un des marchés principaux du tourisme indonésien car Taïwan est inclus dans le rang de top 10. Selon lui, la participation de l'Indonésie dans cette activité est très importante, compte tenu certains facteurs soutenants pour attirer les touristes de Taïwan, entre autres la situation géographique qui n'est pas trop loin et l'intérêt des touristes de Taïwan à l'attraction et les destinations touristiques de l'Indonésie. Il a ajouté que la promotion à cet événement pourrait améliorer l'image touristique de l'Indonésie aux yeux de la population de Taïwan, si bien qu'elle contribue à une augmentation des arrivées de touristes en provenance de Taïwan à l'Indonésie. L'Indonésie et l'Iran coopéreront dans le développement de l'éducation religieuse, à la fois l'enseignement supérieur et les écoles coraniques, afin de reconstruire la civilisation islamique. Le ministre indonésien des Affaires religieuses, Lukman Hakim, a bien accepté l'invitation de la coopération de l'Iran et cette coopération doit être établie vers une meilleure direction, cité par la page komenak.go.id vendredi. Lukman espère qu'à travers cette coopération, les deux pays peuvent créer les mêmes voies sur l'islam. Selon lui, l'Iran est l'un des pays qui joue un rôle important dans la construction de la civilisation du monde. La bonne réponse du ministre Lukman Hakim a été exprimée lorsque le rang du ministère indonésien des Affaires religieuses a reçu une délégation iranienne, y compris le chef des relations internationales de Hawzah Ilmiah Klom de l'Iran, Muhammad Hassan Jamani, le grand prêtre de Mahzab Shafi'i de l'Iran, Abdul Baiz Kitali, et l'ambassadeur de l'Iran à l'Indonésie, Muhammadi. À cette occasion, Jamani a invité les ulémas indonésiens à regarder les établissements d'enseignement en Iran. Le personnel d'experts chargé du secteur du commerce et des services du ministère du commerce, Arlinda, a déclaré « L'Indonésie se concentrerait sur le développement de l'exportation de produits en cuir et de la mode en Corée du Sud. Ce développement est marqué par la coopération entre le ministère indonésien du commerce avec la délégation du Centre Asian Corée. » Arlinda a déclaré vendredi que l'événement fournirait l'information de la stratégie de diversification des produits d'exportation, en particulier vers le pays traditionnel, à savoir la Corée du Sud. En termes de tendance de design, le goût du marché, les normes de qualité, des stratégies de marketing efficaces ainsi que les procédures d'exportation et règlements en vigueur en Corée du Sud. Arlinda a affirmé une série d'activités de l'adaptation de produits en cuir et la mode devraient être utilisées pour améliorer l'accès des produits en cuir et de la mode d'Indonésie en Corée du Sud. De plus, les deux sont l'un des produits du potentiel d'exportation de l'Indonésie. Serge Tor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Manggarai West à Nusa Tenggara Est pour introduire la belle grotte Batu Cermin. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. La grotte Batu Cermin qui se trouve au village Waisambi, Manggarai West, Nusa Tenggara Est, se situe 4 km de Labuan Bajo, la capitale de Manggarai West. Cette grotte était trouvée par Theodor Verhoeven, un prêtre hollandais qui est aussi un archéologue, en 1951. Ce site touristique de 19 hectares avec la hauteur de la grotte d'environ 75 mètres est habituellement bondé pendant la journée. Au moment de l'entrée de la grotte, au long de 200 mètres, vous vous sentirez votre corps est flanqué de falaises et de la mauvaise lumière du soleil. plus vous entrez dans la grotte, vous vous sentirez l'air devient plus frais et moins de lumière que vous gagnerez. Verhoeven a conclu que cette grotte était autrefois sous la mer. Il est basé sur la découverte de fossilisés, de coraux et créatures marines sur le mur de la grotte. Le plus visible est un fossile de tortue dans la paroi de la grotte. Si vous êtes curieux de voir ce qui est dit Verhoeven, vous devez entrer le trou qui peut être tout simplement entré par une seule personne et ne peut pas être passé par l'autre. Avant d'entrer dans la grotte, vous serez généralement équipé d'une lampe de poche par un guide touristique. En effet, la grotte Batuchermin est très sombre et étroite. Pour entrer dans cette grotte, vous devez regarder vers le bas, si nécessaire, ramper à cause des stalactites qui sont au-dessus de la grotte. Pour être capable de voir la tortue fossile sur le mur de cette grotte, vous devez marcher environ 20 mètres. Parce que c'est étroit et l'air est limité, les touristes qui sont entrés dans la grotte sont limités. Par exemple, 10 personnes d'abord et les autres attendent à l'extérieur pendant environ 30 minutes. À l'intérieur de la grotte, c'est répondu sur les tortues fossiles et pourquoi il a été nommé la grotte Batuchermin. La grotte est nommée Batuchermin parce que dans la grotte, il y a un trou dans le haut, de sorte que pendant la journée, le soleil peut entrer dans la grotte à travers la fente étroite. Quand il pleut, l'eau de pluie va entrer dans la grotte et causer des inondations. L'eau stagnante qui est exposée au soleil vous permettra de voir votre propre visage dans une flaque d'eau qui a inondé la grotte. Voilà pourquoi cette grotte est appelée la grotte Batuchermin. Ce n'est pas difficile d'atteindre la grotte. On a besoin moins de 30 minutes. De l'avant du port de Labuan Bajo, vous pouvez utiliser le transport public ou à vélo. Ce transport ne pouvait pas vous transporter jusqu'à l'allée de cette zone après que vous devez marcher environ 10 à 15 minutes pour poster des informations de la grotte Batuchermin. Pour entrer dans la grotte Batuchermin, vous devez payer un billet pour 10 000 rupiah, plus le coût du guide dans la grotte d'un montant de 20 000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant, à la même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité. À demain! Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « L'Indonésie en couleur ». Ce soir, nous vous présentons l'information sur « Tour de Jakarta 2016 ». Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. L'activité du tourisme sportif sous forme du cyclisme est agressivement en cours de mise en œuvre en Indonésie. Il y a Tour de Singkarak, Tour de Bintan, Tour de Flores et Tour de Banyuwangi. Jakarta se participe aussi en organisant Tour de Jakarta le 30 juillet 2016. Les cyclistes nationaux et étrangers stimuleront le vélo autant que 13 fois par tour à rue Sudirman et rue Tamrin, Jakarta. Cette course cycliste est organisée par les militants Sport Vélo Jakarta et la Fondation indonésienne des sports et soutenue par le ministère du Tourisme d'Indonésie. Tour de Jakarta est un mélange des événements de promotion touristique et de sports de prestation sous la forme d'une course cycliste internationale. Tour de Jakarta est organisé pour attirer les touristes locaux et les touristes étrangers. La cible est un millier de touristes étrangers et 100 à 200 000 touristes locaux. Tour de Jakarta sera assisté par 16 équipes où 5 d'entre eux sont des pays étrangers. L'Australie va envoyer 2 équipes. Les participants de Tour de Jakarta 2016 sont les Philippines, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Laos. Le type de course de Tour de Jakarta est course de circuit. La catégorie de course est 1.2, une course de jour avec une distance au long de 175 km. Selon le plan, l'événement du cyclisme Tour de Jakarta sera fait le samedi matin, le 30 juillet 2016, aux 7h temps d'Indonésie Ouest et se termine à 11h. Les promotions seront intensivement transportées dans les médias imprimés et électroniques, à la maison et à l'étranger. Le jour J, le logo Wonderful Indonesia va également décorer tout le chemin des rues Tamrin et Sudirman jusqu'à les attributs des participants. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical qui présente les musiques traditionnelles et pop de l'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter un groupe musical nommé RAN. Le nom RAN est tiré des initiales de ses membres, à savoir Rayi, Asta, Nino. Ce groupe a été formé en 2006. RAN a été connu depuis le premier album intitulé For Your Life. Bon, chers auditeurs, pour ouvrir notre rencontre, voici RAN avec sa chanson intitulée Pandangan Pertama ou La Première Vue. Bonne écoute.
Rasaku terjatuh cinta. is mine, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back, it's my cell phone number, so please call back.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Han intitulée La première voix. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. La chanson intitulée La première voix était dans son premier album intitulé For Your Life qui a été publié en 2008. Grâce à cette chanson, Han est devenu connu dans la musique de l'Indonésie. Après cela, ce groupe musical est plus productif dans le travail. Depuis le début de sa carrière jusqu'à présent, Han a sorti 4 albums. Le 4e album, intitulé Nouvelle Journée, a été publié en 2013. Le single principal de cet album, intitulé Près de cœur. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Han intitulée « Dekat di hati » ou « Près de cœur ». Bonne écoute.
Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Candamu menghibur saatku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, dan langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un groupe musical RAN. La chanson intitulée Près de cœur est le quatrième single du quatrième album. Le 24 juin 2013, cette chanson a commencé à jouer simultanément dans 113 stations de radio à toute l'Indonésie. Cette chanson est une création de Rayi, Asta et Nino qui raconte une relation à longue distance. Bien que le thème de cette chanson soit la relation à longue distance, elle motive toutes les personnes qui sont loin de leurs proches. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons intitulées « Nothing Lasts Forever » et « Begitu Saja » de RAN. Bonne écoute et à bientôt!
Always.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.